A3, c'est plus sympa. Format A3.
Et nous sommes ce matin en compagnie de Laura Chenia pour parler de ce périple, hein, pas loin de 7000 km à vélo pour relier la Suisse à l'Asie, le Laos, la Thaïlande, la Chine, en passant par les Balkans.
Alors Laura Chenia, on sent à la lecture de Cyclonaute, votre blog, que ce voyage n'est pas seulement une évasion et une envie de découvrir le monde, mais aussi une suite de découvertes et de questionnements, c'est juste?
Oui, exactement. C'est sûr. Bon, si jamais on a relié l'Asie en prenant aussi un petit peu un avion, hein, parce qu'en 7000 km, on n'arrive pas jusqu'en Chine. Mais oui, on a été en Asie, c'est vrai.
Vous avez été marqué parfois par l'envers du décor, par les parties cachées de certains pays.
Oui, bien sûr. Après, c'est vague hein, comme terme. Les parties cachées, il y en a plein. Il y a la politique, il y a le chômage, il y a la pollution. C'est clair, si on peut parler d'envers du décor, en même temps, je pense que ça fait partie du décor aussi. Et c'est ça qui nous rappelle qu'on n'est pas en Suisse. C'est que les trottoirs, eh ben, ils sont pas tout propres, tout faits. Il y a toujours une dalle qui est en train de péter quelque part. Enfin, et c'est ça aussi qui fait le charme des autres pays. Et quand on arrive en Suisse, c'est drôle, quand on arrive en Suisse, on redécouvre un nouveau pays, quoi. On est passé par 14 pays et c'est vrai que je pense que la Suisse, en y arrivant, ça aurait pu être un 15e parce qu'on avait des yeux tellement, pas déformés par le voyage, mais on pouvait s'étonner de tout et c'est vrai qu'en Suisse, il y a de quoi s'étonner, de beaucoup de choses en tout cas quand on y arrive.
Vous avez voyagé à vélo, voyagé léger, ça permet de rencontrer les gens d'une autre façon que quand on voyage d'une façon plus classique, ça permet une autre approche, peut-être plus directe, plus simple.
Oui, ça c'est sûr, et on le remarque selon les pays, parce que je parlais tout à l'heure de l'Albanie, il n'y a pas beaucoup de touristes, en tout cas nous on n'en a pas beaucoup croisé parce qu'ils sont plus sur les côtes, on n'a pas fait les côtes, mais du coup il y a effectivement, on nous accueille en tant que voyageurs, on nous accueille comme quelqu'un qui est à vélo, donc forcément on nous propose à boire, à manger gratuitement, voilà, bon, l'échange de cigarettes aussi, c'est vraiment un moyen de communication dans tous les pays, vraiment, les cigarettes. Après arriver en Thaïlande, ben là on sent déjà qu'ils ont plus l'habitude des Européens, qu'on reprend un statut touriste et on reprend un statut quelqu'un qui a un beau porte-monnaie. Et puis là, du coup, ça change tout de suite les rencontres. Mais sinon, par rapport aux rencontres, je pense que nous, on a particulièrement aimé aussi les pays musulmans parce que dans l'islam, il y a une considération du voyage qui est très noble, comme quelque chose de noble. Et puis du coup, le voyageur, on l'accueille. On l'aide et puis c'est faire quelque chose de bien que de faire ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout ici, en tout cas. Et là, dans les pays musulmans, on a eu droit à des accueils invraisemblables, vraiment. On nous prête un appartement, on nous paye à manger, on nous offre à boire. Et puis quand on nous montre l'appartement, on dit « Vous voulez une télé ? Je vous apporte une télé. Qu'est-ce que vous voulez ? Je vous l'apporte. » Et puis ça, c'était presque exagéré. C'était au Kosovo, cette histoire-là. Mais il y a vraiment eu une différence d'accueil. Après, en Turquie, eh bien, c'était des petits gestes plus finaux, plus cachés, mais on nous offrait des chais et on ne savait même pas d'où ça venait. On recevait des thés et on disait « Ouais, c'est monsieur là-bas qui vous l'offre parce que vous voyagez. » Ok, merci. C'est trop bon.
Il y a tout de même, à chaque fois, une toute petite partie où vous êtes intéressé aux gens, il y a des rencontres, il y a aussi toujours un petit peu la spiritualité qui arrive.
Ça, c'est le voyage. Ça, c'est sûr, on peut pas faire sans. En tout cas, le voyage à vélo, je pense que ça s'y prête particulièrement bien. J'ai que expérimenté ça, donc forcément, je prône mon moyen à moi. Mais non, je pense qu'il y a quelque chose de méditatif dans le cyclisme, dans le fait de pédaler. On est quand même toujours seul, même si j'étais avec Mathieu. On est face à soi et puis on traverse les paysages, mais on va à un rythme qui nous permet aussi de traverser nous-mêmes et puis de revenir à des choses importantes. On a lu Nicolas Bouvier, L'usage du monde pendant le voyage, et il a une façon d'écrire les choses qui se rapproche tellement bien de la vérité, et il parle de purger le voyage, c'est une purge de la vie, et c'est vrai qu'au bout d'un moment, je me suis dit, ah ben, cette fois je le comprends, cette fois je vois ce qu'il veut dire. C'est que je me sens bien avec moi-même, je suis bien, je suis là, mais je ne sais plus trop ce que j'ai autour. J'ai perdu mes grands idéaux, j'ai perdu, mais je ne peux plus dire je suis de gauche ou de droite ou de machin. J'arrive plus à mettre toutes des idées dans des cases et tout ça, ça explose et ça fait un énorme bien, quoi. Au bout d'un moment, je ne savais même plus si j'allais réussir à conduire en rentrant, quoi. Non, c'est vrai, au bout d'un moment, on ne sait plus rien, puis en même temps, ça fait peur, puis en même temps, on sait que c'est normal, que ça fait du bien, et puis on le sent, on sent que ça nous fait du bien. Puis ça, c'est génial, quoi.
La vertu d'un voyage, c'est de purger la vie avant de la garnir. Hein. C'est cette phrase de Nicolas Bouvier.
Est-ce que vous êtes fort,
Joël ? Sur votre blog. Maintenant, je la lis sur le blog à l'instant. C'est avec cette phrase-là qu'on va conclure et puis se quitter, puis vous laisser aller garnir la vie, Laura, avant de repartir en voyage.
Non, avec plaisir.